au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nous voudrions réfléchir aujourd'hui ensemble sur les bouleversements de la mort sociale et la mort religieuse que nous constatons en France depuis 50 ans. Donc en gros, nous sommes passés d'une mort, disons traditionnelle, qui existait ou qui a existé pendant au moins 1000 ans, à une autre mort, à d'autres formes de mort, d'enterrement, avec comme caractéristique principale la disparition forte de la mort sociale. Alors essayons de mettre en évidence quelques thèmes ou quelques éléments de cette nouvelle mort ou de ces nouvelles appréhensions de la mort. Un, la montée de la crémation. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, 31% des morts donnent lieu à de la crémation. Deuxièmement, la destruction du religieux traditionnel, de ce que Georges Brassens appelait les funérailles d'antan. Troisièmement, un besoin quand même très fort de religieux autour du funéraire. Il faut savoir quand même encore que 75 à 80% des enterrements sont religieux ou ont une connotation religieuse, et puis la montée des nouvelles ritualités. Alors, pour nous aider à réfléchir à tout cela, nous avons invité, il a gentiment accepté de venir, Christian Biot. Christian Biot, bonjour.
Bonjour.
Christian Biot, vous êtes prêtre à Lyon depuis des années, et vous êtes une référence, un acteur très important de ces évolutions, de ces pratiques religieuses qui ont évolué, qui sont en train d'évoluer, qui proposent de nouvelles formes de cérémonies, de rites, contrairement à ce qui se passait préalablement. Donc, je l'ai dit, vous êtes prêtre et vous avez rencontré en 1970 Louis-Vincent Thomas, donc une des références sur ces questions de rites et de rituels qui a apporté beaucoup d'éléments d'attention et de réflexion autour de ces questions-là. Et en 1990, vous avez constitué donc l'Autre Rive à la demande de l'évêque auxiliaire de Lyon, qui a été au début un groupe de chrétiens qui essayent de réfléchir à cela. Et puis après, progressivement, s'est mis en place donc une structure pour proposer de nouvelles démarches religieuses pour les gens qui ont une appartenance, disons, un peu flottante autour de ces questions-là. Et vous avez animé l'Autre Rive pendant plus de 15 ans et vous êtes maintenant un peu à la retraite de l'Autre Rive depuis 2 ou 3 ans. Donc l'Autre Rive est une association qui est relativement importante et significative. Donc il y a 20 bénévoles aujourd'hui, il y a 1500 célébrations. Mais surtout, comme je l'ai dit, elle s'adresse à des familles qui ne souhaitent pas vraiment avoir des cérémonies religieuses, mais souhaitent quand même avoir quelque chose. Donc il y a un besoin de rites, sans tomber pour autant dans les rites d'antan. Alors, pour bien comprendre votre démarche, il me semble qu'il y a 2-3 convictions importantes qui sont les vôtres. Vous aimez citer à chaque fois ce propos de Brassens, « On ne doit pas garder la mort pour soi ». Deuxième conviction, vous avez la certitude qu'il est essentiel que la société se réapproprie les funérailles, qu'elle ne passe pas, disons, d'une certaine façon, inaperçue. Et donc, vous dites souvent que la mort, c'est l'affaire des vivants. Donc, il faut restituer cette dimension sociale. Et c'est pourquoi on a tout intérêt à vous interroger sur ces questions-là, parce que, d'abord, vous avez pratiquez cela, vous êtes un acteur de cela, donc c'est cette expérience-là qui nous intéresse. Et puis deuxièmement, pour ceux que le sujet intéresse, vous avez écrit 3 livres sur le sujet. Un, donc la célébration des funérailles 1993 chez DDB. 2, cérémonie des obsèques adaptées aux convictions de chacun, 2006, édition de l'atelier. Et toujours aux éditions de l'atelier, en 1996, mourir vivant. Alors, ma première question pour essayer de bien comprendre d'où nous venons, c'est est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment, pour reprendre toujours Brassens, ce que vous aimez bien, se passaient les funérailles d'antan, c'est-à-dire il y a 50 ans, parce que soit les gens ont un peu oublié, soit si on considère que les bouleversements ont été extrêmement rapides, on ne sait plus très bien, comment il y a 50 ans, la mort intervenait et s'inscrivait dans les familles et dans le champ du social.
Oui, alors c'est assez facile pour ceux qui ont un peu plus de 50 ans. de se rappeler les funérailles qu'ils ont pu vivre il y a un certain nombre d'années. Et pour la tradition catholique, on peut avoir comme point de repère 1972. C'est-à-dire qu'après le Concile, il y a eu un certain nombre de modifications dans la liturgie. Et c'est à cette date-là qu'a été publié un nouveau rituel des funérailles en langue française. Dans ce rituel, on retrouve les trois grands moments de ce qu'on peut appeler l'ensemble des funérailles. Ce qui se passe dans une relative intimité familiale autour du corps du défunt, soit qu'il soit à domicile, soit qu'il soit à l'hôpital, soit qu'il soit maintenant dans une maison funéraire, où il peut y avoir une visite, des temps de recueillement et de prière. Et puis un deuxième grand moment qui est, j'allais dire, l'ouverture de cette intimité familiale à des relations sociales plus larges et plus variées, parce que bien d'autres personnes ont besoin de, j'allais dire, marquer le coup que quelqu'un est mort et qu'on ne peut pas passer ce phénomène-là, cet événement-là, sans le manifester socialement et amicalement. Donc il y a ce deuxième temps qui, dans le rituel de l'Église catholique, se déroule à l'Église paroissiale. Avec un peu l'image lointaine, c'est que on envisage que quelqu'un est dans une paroisse et qu'il la fréquente, et que souvent cette paroisse est un lieu qui a été le lieu de sa naissance, de son mariage et de sa mort. On voit bien qu'aujourd'hui, on est un peu loin de cette réalité-là. Et le troisième moment dans la célébration des funérailles, c'est ce qui se passe autour de l'inhumation. Alors, c'est vrai que l'Église, depuis 1963, autorise, elle tolère, c'est le mot exact qui a été employé dans le texte officiel, elle tolère la crémation, mais elle maintient une préférence pour l'inhumation. Et donc, avec tout ce que cela comporte de temps à la fois public et privé qui se vit au cimetière, en se rappelant que l'intérêt du cimetière, c'est que c'est un lieu public, c'est-à-dire que ce n'est pas une mainmise de la famille sur les restes du défunt.
Alors, est-ce que vous pouvez, donc, ça c'est les trois temps de la mort, dites-nous un peu, donc il y a 50 ans, on parlait autrefois des pompes funèbres, expression qui est restée, mais enfin les pompes ont quand même disparu. Donc moi je me souviens quand même effectivement de la maison du mort, des visites, des trois classes, etc. Est-ce que vous pouvez nous, parce que c'est quelque chose qui est quand même très, très inscrit dans le paysage culturel et qui a complètement disparu. Cette visibilité, cet arrêt du temps social a complètement disparu. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit flashback, comme on dit en bon français, pour nous rappeler au début, quand vous avez commencé donc à être prêtre, vous avez commencé à célébrer des enterrements, comment les choses se passaient ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu oublié ce temps d'autrefois où tout était arrêté et tout tournait aussi autour de la religion du prêtre qui était l'élément pivot central de ces trois temps-là.
Alors, j'ai commencé moi, mon ministère sacerdotal en 1960. Et j'ai à ce moment-là été nommé vicaire dans une paroisse qui s'appelait Saint-Bruno à la Croix-Rousse à Lyon. Et on avait donc une célébration de funérailles qui pouvait avoir quelquefois beaucoup de simplicité, avec un prêtre pour officier, et puis quelquefois qui pouvait connaître un certain déploiement, soit dans le nombre des intervenants, avec un prêtre mais qui était assisté d'autres prêtres, soit dans la mise en place de musique ou de choses de ce style, qui donnaient plus ou moins d'ampleur à la cérémonie. Mais c'est vrai qu'en 1960, quand les familles venaient me rencontrer pour préparer les funérailles, la préparation était relativement courte parce qu'il suffisait, au fond, de dire aux gens à quelle heure on va faire la cérémonie et puis d'avoir quelques mots qu'on pourrait dire sur le défunt. Et c'est, j'allais dire, dans les années qu'on suivit, c'est-à-dire autour des années 70, qu'on a remis un peu en question le programme officiel de la liturgie, qui a ses qualités d'ailleurs. Il ne faut pas jeter cette liturgie à la poubelle, parce que je crois qu'on a à puiser encore aujourd'hui dans la richesse de cet ensemble-là, qui est constitué essentiellement d'un temps d'accueil, où on se ressaisit les uns les autres comme rassemblés autour du défunt, et j'allais dire derrière la personne du défunt, rassemblés autour de Jésus, et comment ce rassemblement prend forme dans l'écoute partagée de textes bibliques, c'est-à-dire de textes qui font référence à la foi commune des chrétiens, et comment cette référence au texte est ensuite déployée à travers, j'allais dire, une gestuation dont les éléments les plus importants, que tout le monde se souvient, c'est ce qu'on appelle l'absout, c'est-à-dire le geste dans lequel on demande à Dieu de pardonner les péchés, mais on accompagne cette demande d'un geste qui est le signe de la croix avec l'eau. Et on voit bien qu'à travers cette eau-là, même si on ne fait pas toujours référence au baptême, c'est toujours de l'eau envisagée à la fois comme symbole de purification et symbole de renaissance et de vie nouvelle. Donc on peut garder cette grande structure. Mais je crois qu'après, les années 70 par là, on s'est mis à prendre plus en compte la situation individuelle du défunt et la situation de l'entourage immédiat, que ce soit la famille, que ce soit les groupes sociaux ou professionnels auxquels le défunt appartenait, et de pouvoir donner occasion à ces vivants de dire quelque chose par rapport au défunt.
Alors justement, qu'est-ce qui, à votre avis, quels sont les facteurs, les éléments qui ont fait que tout cela a changé ? C'est-à-dire que ce que vous avez connu, vous, jeune prêtre dans les années 60, vous avez vu, constaté, et vous l'avez d'autant plus vu que vous en occupez depuis des années, que tout cela, tout ce décorum, toute cette habitude, toutes ces cérémonies se sont progressivement trouvées un peu en décalage, en déphasage, pour partie, avec les besoins des gens qui viennent vous voir ou qui rentrent dans une église ou qui se trouvent confrontés à la mort d'un proche. Alors quels sont, à votre avis, les symptômes, les signes, les éléments qui mettent en évidence ces évolutions considérables que nous constatons ?
Alors, il me semble qu'un des facteurs majeurs de cette évolution, qui est illustré par l'événement de Vatican II, c'est que la liturgie catholique n'est pas seulement une édification de cérémonies, de rites, de pratiques qui sont la propriété des responsables de l'Église, mais que cette fonction liturgique, les gens d'aujourd'hui peuvent y avoir une part active. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on a modifié le visage de l'Église en essayant de restaurer ce qui était affirmé d'ailleurs dans les premières déclarations conciliaires, c'est que la première chose, c'est que l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire, avant d'être une hiérarchie, et une hiérarchie qui tend à devenir sacrée, c'est-à-dire qui tend à se figer dans un certain nombre d'habitudes rituelles, il y a retour vers une expression de l'ensemble des croyants et donc une prise en compte de la diversité où sont les gens. C'est-à-dire que la manière d'exprimer sa foi, on accepte aujourd'hui qu'elle soit relativement diverse, peut-être même avec un certain nombre de contradictions, ça c'est possible, hein, mais qui provoque ça. Et on voit bien que dans le mouvement actuel de restauration, on voudrait revenir à quelque chose qui serait, c'est-à-dire un peu sur le modèle de l'immobilité. Vous savez, c'est dans les revendications qu'on trouve actuellement, on dit de la messe de Pie V que c'est la messe de toujours. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'est justement la messe de Pie V. C'est-à-dire que c'est l'instauration d'une liturgie qui est liée aussi à l'action pastorale de l'évêque de Rome. Et qu'elle n'est pas simplement la liturgie de toujours. Moi, j'ai appris au séminaire, enfin, j'ai suivi des cours sur l'histoire de la liturgie. Et je crois que c'est très intéressant de voir comment la liturgie, c'est-à-dire l'expression publique de la foi de l'Église à travers ses rites et ses sacrements, est liée à la culture des populations à laquelle l'Église s'adresse.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc notre entretien avec Christian Biot. Nous reprenons donc notre entretien avec Christian Biot au sujet de ces évolutions des funérailles, lui-même étant acteur et témoin de ces différentes évolutions pour avoir formé et constitué l'autre rive, donc dans les années 90, et qui propose justement à toutes ces familles qui se trouvent sans doute pour partie en déshérence ou qui n'arrivent pas à trouver une juste adéquation entre ce qu'elles veulent et la liturgie catholique traditionnelle, si l'on veut, traditionnelle au sens qui a toujours existé, même si le toujours est relatif. Alors je voudrais qu'on essaie de reprendre un tout petit peu les motivations qui ont été les vôtres au moment de la création de l'autre rive. Vous nous avez dit, dans la première partie, qu'il y avait, en termes d'évolution, à la fois une demande de liturgie partagée, une demande de personnalisation plus forte, et deuxièmement, une diversité des situations personnelles, une foi diverse, avez-vous dit. Alors, comment est-ce que dans les années 90, donc, vous vous mettez à créer l'autre rive? Et pour le dire autrement, pourquoi? Quel était ce décalage que vous avez ressenti et qui a été à l'origine de la création de l'autre rive?
Alors, dans la diversité que j'ai évoquée tout à l'heure très brièvement, je crois qu'il y a un élément qu'il faut souligner maintenant, c'est la mise en place progressive par certaines municipalités ou par les entreprises de pompes funèbres, de lieux d'accueil pour le défunt et la famille des défunts. C'est-à-dire qu'en 1960, pour reprendre, puisqu'on va faire un peu d'histoire, même si ce n'est pas très loin, c'est quand j'étais vicaire à Saint-Bruno, c'était impensable que des chrétiens fassent des funérailles ailleurs qu'à l'église. Et quand on prend le rituel de 1972, il est dit dans les textes préliminaires que le lieu normal de la célébration des funérailles, c'est l'église locale paroissiale. Quand il y a ouverture de locaux, on voit bien que cette disposition est mise en question et que des pratiques commencent à s'installer peu à peu ou, pour des raisons souvent pratiques, les gens vont accepter d'aller plutôt dans une salle dite souvent omniculte, dont la gestion est assurée soit par des municipalités, soit par des entreprises de pompes funèbres. Ce qui le signe aussi que ces groupes sociaux, ces groupes familiaux, n'ont plus un même enracinement géographique et territorial qui leur permet d'identifier une église comme leur église. Je crois que l'image rurale est encore très prégnante, mais on est bien obligé de considérer aujourd'hui que pour la grande majorité des gens, cette image rurale ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le lieu où ils habitent n'est pas le lieu de leur enfance, n'est pas éventuellement le lieu où ils ont fait le catéchisme, le lieu peut-être où ils se sont mariés, mais qu'il y a une diversité de lieux. Et donc il y a une dispersion, si on peut, veut dire des attaches locales. À côté de ça, donc, je crois qu'il y a la mise à disponibilité. Donc, c'est devant cette situation-là que l'évêque auxiliaire de Lyon, qui était Jacques Fèvre, m'a demandé de créer une équipe qui pourrait répondre aux demandes exprimées par des familles qui se reconnaissent membres de l'Église catholique d'assurer des célébrations dans ces nouveaux lieux disponibles. Donc, non pas ressolliciter les gens pour qu'ils reviennent dans une paroisse qui, éventuellement, a disparu, mais qu'on puisse, au contraire, nous, c'est-à-dire nous déplacer dans le lieu qui va être le lieu possible de rassemblement de la famille, des amis, de l'entourage. Voilà, c'est donc le premier déplacement, si vous voulez, qu'on a fait, qui est un déplacement, j'ai l'air, très géographique. Alors, à côté de ce déplacement géographique, et je crois que c'est en partie lié, parce que dans la mesure où nous rencontrons des gens où il n'y a plus le clocher paroissial qui oblige plus ou moins à entrer dans la pratique des rites véhiculés par cette église paroissiale, les gens se sentent un tout petit peu plus à l'aise pour exprimer une certaine diversité, à la fois sur leurs convictions, leurs croyances, mais aussi sur leurs interrogations. Et que par conséquent, on a eu la possibilité, ou j'allais dire presque d'une certaine manière l'obligation, d'avoir un temps d'écoute des familles pour savoir qu'est-ce qu'elles attendaient elles-mêmes d'un temps de célébration. Alors on ne leur pose pas la question de façon abstraite pour qu'ils répondent « qu'est-ce que vous attendez de la célébration ?» mais qu'à travers l'échange qu'on a avec la famille sur la place du défunt, sur ce qu'on voudrait rappeler de lui, sur la manière dont on voudrait inscrire ce défunt dans une histoire sociale, dans une histoire religieuse, dans une histoire croyante, c'est bien ça qu'on est en train de faire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément correspondance exacte entre ce qui s'exprime là et ce qui a été organisé autrefois à travers les rituels. Glissement donc sur l'attention à la demande de ceux qui nous sollicitent. Et je crois que c'est dans ce glissement, mais pour moi le mot glissement n'est pas péjoratif, hein, ce glissement que nous avons entrouvert la porte en 90 à la possibilité d'accompagner des familles qui ne feraient pas référence à la foi chrétienne. En nous disant peut-être avec un peu de prétention, on a quand même bien travaillé sur le problème des rites, leur signification, leur organisation. On est peut-être capable d'aider les gens à mettre en place quelque chose qui va emprunter à la ritualité, quoi qu'elle soit chrétienne ou qu'elle vienne d'autres sources, mais pour élaborer quelque chose qui leur semblera mieux correspondre à ce qui se construit dans leur relation à celui qui est mort.
Mais qu'est-ce qui, à votre avis, pose problème, ou qu'est-ce qui, à votre avis, a occasionné de votre part ces déplacements ou ces adaptations ou cette mobilité, hein ? On est passé, si j'entends bien ce que vous dites, d'un clocher fédérateur, hein, qui était au centre, à une église devenue sorte d'équipe mobile, hein, qui va au-devant des besoins et qui peut célébrer dans d'autres lieux, dans d'autres endroits. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait peur ? C'est l'institution ? C'est une foi qui n'est pas aussi structurée qu'elle existait préalablement ? C'est l'identification à quelque chose de catholique qui laisse à supposer qu'on est vraiment complètement d'accord avec tout ce que l'Église catholique dit ? Qu'est-ce qui a bougé, à votre avis, dans les familles qui, comme vous le dites, ont quand même besoin de religieux, mais d'un religieux peut-être plus light, plus soft, plus discret ?
Alors, je crois que les familles ont besoin de poser un certain nombre d'actes qu'on va appeler des rites, même si les rites sont un peu inventés à tâtons et c'est un peu contradictoire avec la définition des rites, mais de se raccrocher à un certain nombre de pratiques sociales ou de pratiques issues de la tradition religieuse pour passer l'événement. Car le rite funéraire est essentiellement, dans sa composition et sa diversité, une réalité qui a pour but de saisir les vivants d'aujourd'hui bousculés par la mort de quelqu'un, de s'accrocher à un certain nombre d'éléments de repère qui vont permettre que cette traversée, qui peut être difficile, mais ne soit pas périlleuse. Quand on traverse une tempête, il est quand même bon d'avoir, c'est-à-dire une embarcation dont on sait qu'elle tiendra la mer, et non pas de se laisser aller simplement à l'abandon ou à tenter de se jeter à l'eau simplement tout seul. Et je crois que le rite fonctionne bien au-delà de ses versants intellectuels, parce que c'est bien plus loin que l'intellectuel, c'est dans la chair même. Il faut qu'il y ait des rites qui soient porteurs pour traverser l'événement. Donc on va toujours puiser dans du rituel ou quelquefois on va inventer. Mais les gens ne se reconnaissent plus forcément dans l'expression qui leur vient de la tradition. parce que ça ne leur dit rien. La deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup motivé, c'est que je crois de plus en plus qu'une attitude que je vais appeler pastorale, ça consiste à rejoindre les gens là où ils sont. Et qu'il est important pour moi, comme pasteur, c'est d'entendre les gens et de les aider à prendre conscience, c'est-à-dire de ce qu'ils disent à travers leurs émotions, à travers leur demande d'une cérémonie, à travers les paroles qu'ils vont choisir, les textes qu'ils vont aussi choisir, la musique qui va accompagner, de dire des choses qui les tiennent, j'allais dire, dans les tripes et dans le cœur, ce qui ne fait pas faire l'économie de l'intelligence. Car dans le cœur biblique, vous savez, comme moi, que l'intelligence y est pour quelque chose. Et que cette écoute-là n'a pas pour but de projeter sur ces gens qui sont là, que je rencontre occasionnellement, le plus souvent, ne sont pas pour moi l'occasion de projeter brutalement le message tel qu'il peut être dit du haut de la chair d'une église ou du haut d'un enseignement d'encyclique pontificale. Mais c'est en essayant de saisir ce que les gens disent et en leur montrant que ce qu'ils disent, c'est important. Et qu'en prenant en considération l'importance de ce que les gens disent, me semble-t-il, c'est de rendre possible que la mort de quelqu'un ne soit pas fermeture, mais puisse laisser appeler ou laisser entendre qu'elle sera aussi une ouverture.
Alors, est-ce que le risque qui est le vôtre, donc votre démarche, c'est de dire rejoignons les gens là où ils sont, d'une part, et considérant que pour les gens, pour beaucoup de ceux qui sont confrontés à cette mort, la grammaire chrétienne, si on veut, enfin la liturgie chrétienne, enfin, n'est plus immédiate. C'est un souvenir un peu lointain. Et donc, ils ne savent pas très bien comment faire coïncider, ce qui existait préalablement, une demande qui est un peu floue avec une liturgie qui, elle, n'est pas floue et qui est certaine. Donc, est-ce que le risque qui est le vôtre n'est-il pas soit de considérer que le rite est plus symbolique que religieux, d'une part. Et deuxièmement, est-ce que le risque qui est le vôtre, ce n'est pas de transformer ou de faire en sorte que l'Église catholique devienne un lieu symbolique self-service où chacun vient un peu comme une auberge espagnole amener ce qu'il en est. Donc comment est-ce que, face à ces risques-là, pour autant que vous les considériez comme des risques, comment est-ce que vous les percevez et comment est-ce que vous réagissez face à cela ?
Je ne veux pas cacher qu'il y a des risques. Et en effet, je comprends très bien que parfois, un certain nombre de membres de l'Église, voire aussi des responsables hiérarchiques, nous disent « Mais alors, quand est-ce que vous allez annoncer la résurrection, par exemple ?» Parce que c'est comme ça que les questions viennent brutalement. Vous n'avez pas parlé de la résurrection. Pour moi, ce n'est pas la vraie question. La vraie question pour moi, c'est qu'est-ce qui permet que ce rite, les prises de parole qu'elle comporte, le temps de maturation, permettent à des gens d'accepter que la mort de quelqu'un va entraîner un certain déplacement, au sens qu'ils vont être invités à se déplacer, à que quelque chose bouge en eux, soit dans leur certitude, soit dans leurs interrogations. Hier, j'ai fait des funérailles. C'était un monsieur qui a, jeune, 60 ans, qui a vécu 9 années où, peu à peu, son cerveau s'est complètement décomposé et défait. Et ça a été extrêmement pénible pour les enfants. Ce qui m'a semblé le plus important pour ces deux enfants qui ne font pas référence à la foi chrétienne de façon explicite, c'est qu'ils puissent parler de leur père et qu'ils puissent dire quelle relation s'était tissée à travers beaucoup de moments difficiles d'ailleurs et comment ils étaient provoqués par cette mort très longue et très lente et très violente d'une certaine manière que leur père avait dû vivre. À la fin de la célébration, le garçon, un des garçons, puisqu'ils sont deux, m'a dit « Je ne fais pas le signe de la croix sur le cercueil, mais je suis chrétien. » C'est-à-dire qu'il a pu dire, je crois, quelque chose qui, pour lui sans doute, est profond, c'est que je ne me reconnais pas dans un certain nombre de formes rituelles qui sont communes au christianisme, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui sommeille. Ou bien pas sommeille, quelque chose qui veille. Et j'avais vécu 3 semaines avant, pour des funérailles aussi, là, d'une jeune femme de 35 ans, un moment un peu semblable, où à la fin de la cérémonie, le frère de la défunte est venu vers le cercueil et s'est adressé donc à sa sœur et il a dit « Nous nous aimons beaucoup. Je ne peux pas croire que nous ne nous retrouverons pas. » Pour moi, ministre catholique, c'est plus important que ce garçon puisse dire cette phrase à sa sœur devant l'assemblée que si moi, j'avais proclamé, vous savez, vous avez bien du chagrin, mais vous n'en faites pas, de toute façon, c'est tout sauvé d'avance. Mais c'est la prise en compte de ce que j'appellerais une démarche spirituelle, que je ne vais peut-être pas qualifier tout de suite de religieuse, mais spirituelle au sens où je m'interroge sur la dimension ultime des êtres humains.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc notre entretien. Nous reprenons notre entretien avec Christian Biot. On a bien vu effectivement dans cette deuxième partie que vous cherchiez avant tout à retrouver les gens là où ils sont et vous avez beaucoup insisté sur cette idée du déplacement. Il se passe quelque chose, voilà, il se passe quelque chose à ce moment-là et plutôt que de plaquer de l'extérieur des rites qui ne correspondent pas complètement à ce que les gens attendent, d'aller leur proposer quelque chose leur permettant sans doute de bouger en eux-mêmes, de laisser éveiller en eux quelque chose avec, vous avez dit, cette très belle phrase d'une personne qui entourait l'un des morts que vous avez enterré, « Au fond de moi, quelque chose veille. » Voilà, « Au fond de moi, quelque chose veille. » Et puis cette autre phrase très belle, « Je crois, disait-il, que nous nous retrouverons. » Voilà, alors retrouver où, comment, de quelle manière, voilà, une croyance, une espérance existait. Alors, je voudrais que vous essayiez de nous faire partager maintenant ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous avez un souci qui est celui d'aller retrouver les gens. Mais pourquoi est-ce si important que cela d'accompagner les familles au moment d'un enterrement ou au moment d'une cérémonie funéraire? Pourquoi est-ce que vous considérez qu'après tout, c'est une ardente obligation de votre part que d'aller proposer un accompagnement, un rite. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si important?
Alors pour moi, c'est très important qu'il y ait des rites, justement parce qu'on est en train de franchir un seuil et qu'on n'est pas dans un savoir qui serait solide au sens qu'il ne susciterait pas d'interrogation sur... Qu'est-ce que c'est après? C'est la même chose quand on a la naissance d'un enfant. Si vous regardez un jeune couple qui vient d'avoir un bébé, ils sont là un peu maladroits autour de ce bébé qui est dans son berceau et il va falloir qu'ils communiquent cette émotion, cette réalité nouvelle à ceux qui les entourent. Et donc, il y aura des rites autour de la naissance. Et dans la tradition chrétienne, c'est devenu les rites autour du baptême, encore qu'aujourd'hui, souvent le baptême est décalé par rapport à la naissance. Mais il y a besoin, c'est-à-dire quand quelque chose survient, qu'on ait des rites, c'est-à-dire une réalité qui est portée à la fois par un corps social et qui est aussi nourrie par ce que nous sommes chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un rite qui serait un rite, j'allais dire, qui est déconnecté de mes interrogations ou de mes émotions, c'est un rite qui ne me parle plus. Je peux assister, moi qui ne suis pas de tradition bouddhiste, je peux assister à des rites bouddhiques autour de la mort mais je risque de rester très extérieur parce que les conventions rituelles, je n'en connais pas les règles. Donc, ça me semble bizarre. Alors, si j'ai un peu de sympathie, je vais faire un effort pour comprendre, mais il faudra du temps. Et je crois que pour beaucoup de gens aujourd'hui, par rapport au rite de catholique ou au rite chrétien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans la mesure où ils ne sont plus portés par cette institution dans le quotidien, les rites que cette institution propose risquent bien en effet de ne plus parler à leur sensibilité, à leur intelligence. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui viennent donner du poids au rite. Le premier élément, c'est l'importance d'être ensemble. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre la mort de l'autre, surtout s'il m'est proche, simplement dans mon individualité. Et que j'ai besoin qu'autour de celui qui s'en va soit manifesté que cet homme existe dans un certain nombre de liens, que ces liens sont à la fois mis à mal par la mort, mais qu'en même temps, ces liens ne sont pas rompus. D'une certaine manière, je ne souscris pas à la phrase quand on dit « c'est fini ». Je pense que c'est une phrase tout à fait normale quand on est auprès d'un être qui est en train de mourir et qu'il rend le dernier souffle. On dit « c'est fini ». C'est tout à fait normal qu'on le dise. Mais en même temps, on voit bien qu'il faut tout de suite dire « c'est fini, mais il va y avoir quelque chose d'inattendu que nous n'avons pas programmé, qu'il n'est pas programmable, mais pour lequel il faut se préparer. » Et le rite, j'allais dire, est aussi donc un élément de préparation par rapport à l'avenir. C'est souvent, si vous voulez, pour reprendre les choses, qu'on peut quelquefois jouer sur des mots. Nous sommes séparés de celui qui vient de mourir, mais la séparation, ce n'est pas le même mot que le mot rupture. Et je pense que les gens peuvent en effet être aidés dans leur démarche parce que le rite va bien nous aider à prendre acte de la séparation. Cet homme dont le corps est là dans un cercueil, ce n'est plus un vivant. Je ne peux plus lui parler comme je parle à un vivant. Je ne peux plus l'entendre comme j'entends un vivant. Je ne peux plus l'embrasser comme j'embrasse un vivant. Mais en même temps, dans la cérémonie, dans le rite, je dis que cette séparation n'est pas rupture. C'est-à-dire que quelque chose d'autre est à naître et à surgir. Hier soir, j'étais à une conférence organisée par la protection maternelle et infantile à Lyon pour des femmes et des couples qui ont perdu un enfant, soit avant la naissance, soit dans les jours qui ont suivi la naissance. Et la rencontre a commencé par le témoignage bien réfléchi, bien posé d'une femme qui a perdu un enfant il y a donc une dizaine d'années. Elle a expliqué un peu son itinéraire. Et moi, ce que j'ai retenu beaucoup de cette soirée, c'est qu'aujourd'hui, elle peut dire « Je n'oublierai jamais cet enfant que j'ai eu. Il a sa présence dans le groupe familial. Il est inscrit dans ce groupe familial, même si je reconnais qu'il est mort, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas. Mais la séparation n'est pas rupture. Et de la séparation peut naître quelque chose. » Et alors, je trouvais très beau comment elle a dit, mais peut-être qu'aujourd'hui, cet enfant mort, c'est celui qui me donne ma fécondité actuelle pour entendre d'autres parents endeuillés. Ça, je pense qu'au moment de la mort de son enfant, cette femme n'aurait pas pu dire ça. Mais le cheminement qu'elle a fait, et je pense que le rituel auquel elle a participé au moment de la mort et peut-être aussi dans les semaines et les mois qui ont suivi, ça lui permet d'accéder un jour à cette fécondité-là, qui est une fécondité inattendue pour elle, qui n'est plus de l'ordre biologique directement.
Alors, on a insisté pour les éléments du rituel sur deux points. Le premier, c'est le rassemblement, être ensemble. Et le deuxième, c'est se préparer, dites-vous, à quelque chose d'inattendu. Alors, il y a un troisième point sur lequel vous insistez beaucoup dans vos ouvrages et vos différentes conférences, c'est la parole. Parler. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de parler alors que, à la limite, on peut considérer que c'est un peu superflu, enfin, dire que c'est fini, on n'en parle plus, passons à autre chose. Pourquoi c'est si important que cela de poser des paroles?
Oui, vous venez de dire c'est fini, on n'en parle plus. Ça veut dire que la mort de mon époux, la mort de ma mère, la mort de mon enfant, ça va être une réalité qui est enkystée au fond de moi. Or, une réalité enkystée au fond de moi, c'est comme une pierre qui pèse lourd dans l'estomac. Et qu'il faudra bien que, tout d'un coup, au-delà de cette pierre, il réapparaisse de la vie. Et je crois que dans notre humanité, la parole est le signe de la vie. Il y a souvent des hommes qui restent meurtris, fermés, pliés à la suite de la mort de quelqu'un. L'autre jour, je lisais un texte où un monsieur dit « J'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans et depuis rien n'a bougé ». C'est-à-dire que la mort du père a été d'une certaine manière la mort du fils aussi. Alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bougé, je ne connais pas la situation précisément. Mais ce que j'entends quand cet homme dit ça, c'est qu'en effet il n'a pas eu un lieu dans lequel ce qui est encore une pierre qui pèse lourd dans mon estomac ou dans mon cœur peut tout d'un coup être allégé par la parole. Quand je dis allégé, le mot n'est peut-être pas très juste. Il faudrait dire que la parole va être une réinvitation à donner du sens à la vie. C'est pour ça que je crois que la parole est très importante. Moi, je ne suis pas dans le règne animal, je ne sais pas comment font les animaux avec les morts, mais je crois que quelqu'un qui ne peut pas parler de la mort d'un être cher, il est muré et qu'il faut, à un moment ou à un autre, le démurer. Le rite est un des éléments constitutifs de ce refus de se laisser enfermer dans la geôle de la mort. Nous sommes des êtres de parole. Alors quand je dis parole, ça ne veut pas dire forcément les mots. Hein. Il ne faudrait pas croire que c'est parce que les gens sont doués pour remuer des mots dans leur bouche que les choses vont aller bien. Quelquefois, la parole peut très bien prendre une autre forme. Ça peut être simplement que je refais le plat que ma femme m'avait apprise quand on était jeunes mariés. Alors je ne suis pas capable d'expliquer ça, mais je m'aperçois que je refais ça. Et d'une certaine manière, je suis en train de réinscrire ma femme dans la réalité vivante qui est la mienne. Elle n'est plus simplement la morte.
Vous insistez beaucoup sur cette question de la parole, mais aussi sur la question des gestes, de poser un geste. Et vous venez effectivement de le dire, là on est dans du rituel familial, mais poser un geste. Pourquoi est-ce que c'est important, au moment de la mort, de poser un geste ou de laisser d'autres, comme vous, un prêtre, poser des gestes?
Parce que nous sommes parole, je crois que, enfin, j'en suis très convaincu, mais nous sommes parole dans un corps. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un ange. Je ne connais pas le statut des anges exact, je n'ai jamais expérimenté. Mais ce que je sais, par mon existence, par l'existence des gens qui sont autour de moi, c'est que je ne peux pas dissocier la parole du corps. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir des propos qui seraient simplement ceux de la cervelle, mais que dès que je dis une parole dans laquelle je m'engage, dans laquelle je fais entrer mes émotions, mes choix, mon histoire, c'est une parole incarnée. Ce qui permet en effet d'avoir un certain nombre de rites où l'agir corporel a une place extrêmement importante. Je ne vois pas bien des amants qui ne s'embrasseraient jamais. Ils peuvent se dire « je t'aime », je souhaite qu'ils se le disent. Mais ce « je t'aime », ça va prendre aussi d'autres formes que les mots. Et sans doute qu'à travers le jeu du corps, que ce soit les baisers, que ce soit l'étreinte sexuelle, va se dire quelque chose qui vient aussi de l'ordre du langage. Donc le rite réinstaure la valeur du corps, y compris d'ailleurs dans la perte du contact corporel qu'on a avec le mort. Mais dont on voit bien l'importance aussi, c'est qu'on ait des traces du corps. Dans les photos, dans un vêtement qu'on garde, dans un objet qui était familier aux morts, dans telle ou telle expression, ou tout à l'heure, comme je l'évoquais, telle ou telle recette de cuisine, parce que moi j'aime bien la cuisine et que je trouve que c'est souvent un lieu très fécond de vie partagée. On fait ça parce qu'elle le faisait. Je suis très surpris quelquefois d'entendre des jeunes couples, ou moins jeunes, parce que je commence moi aussi à prendre de l'âge, qui disent « Ah ben ça, c'est la recette de grand-mère ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est vivant de la grand-mère et qui est noble, qui est la recette de cuisine. Et je ne peux pas faire cette recette de cuisine sans faire mémoire d'elle. C'est-à-dire que je la célèbre non pas comme une morte rejetée dans l'oubli, mais comme une réalité qui est encore vivante et encore agissante aujourd'hui.
Nous allons observer une dernière page de musique avant de reprendre donc notre entretien. Nous reprenons notre entretien avec Christian Biot et nous avons vu, donc juste avant, que votre conviction forte, qui n'est pas seulement une conviction, qui est une expérience forte, c'est que par la parole, par le geste, il y a des formes de libération qui s'opèrent pour éviter que cette mort muette, si elle n'est pas exprimée, ou cette mort sans geste, si des gestes ne sont pas posés, soit une réalité enquistée au fond de moi, pour reprendre exactement votre expression, et donc qui, quoi, pourrisse, ou qui soit un poids, avez-vous dit. Alors, je voudrais qu'on, dans cette dernière partie, que nous puissions essayer de voir aujourd'hui qu'en est-il de ce désir ou de cette pratique de la crémation, en particulier, qui est extrêmement forte, qui monte, je disais, on est à peu près à 30%, enfin voilà, quelque chose comme ça, aujourd'hui. Comment est-ce que, face à cela, comment est-ce que vous comprenez la crémation, d'une part, le désir de crémation, d'une part, et comment est-ce que vous, pratiquement, peut-être avec des exemples, vous accompagnez ceux qui sont en demande de crémation ou ceux qui sont confrontés à la crémation d'un proche? Alors, première question, comment analysez-vous cette montée en puissance de la crémation dans les funérailles ou dans la fin de vie, enfin la mort des individus?
Personnellement, je ne suis pas trop mal à l'aise avec la montée progressive de la crémation. Je pense qu'il y a des raisons très pratiques qui souvent motivent les gens et que le problème pour nous, c'est comment cette crémation pourra être vécu autrement que comme déblayer, j'allais dire, ce qui nous encombre. C'est-à-dire, je crois que si les gens disent « on va faire une crémation pour qu'ils tiennent moins de place », je crois que c'est une mauvaise motivation de la crémation. Parce que je ne suis pas sûr que celui qui est crématisé tienne moins de place parce que son corps a été rapidement réduit en cendres. Donc il faut que ça s'inscrive dans une autre perspective, c'est-à-dire une perspective à la fois pratique et une perspective aussi où on va entourer cet acte technique par justement des éléments rituels.
Mais pour revenir là-dessus, pour que vous dites, effectivement, il faut éviter que la crémation ait comme désir que les gens prennent moins de place, dites-vous. Oui. Et ce n'est pas parce que les gens prennent moins de place physiquement que pour autant ils en prennent moins dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre vie. Mais on constate quand même que le désir de crémation à 35% vient de gens qui, justement, se sentent à la charge, par avance, à la charge de leur famille et donc veulent, par avance, d'une certaine façon, se retirer. Donc il y a bien un lien quand même qui existe
tout
aujourd'hui.
À fait.
Est-ce que c'est ça que vous constatez, vous, dans les...
Dans Je constate souvent que les gens qui ont demandé la crémation sont souvent des gens, en effet, qui appuient leur demande sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, je ne veux pas ennuyer ou embarrasser mes descendants. Donc, je laisse la place libre. Je ne suis pas sûr que pour les familles, c'est-à-dire les vivants qui restent, cette argumentation soit celle que eux emploieront quand ils vont accepter de faire la crémation de quelqu'un de leur famille. J'ai rarement vu des gens dire « on va vite le crématiser parce que comme ça, on sera débarrassé ». En tous les cas, quand c'est ça qui s'exprime, et c'est vrai que l'autre jour, j'ai entendu cette expression-là à peu près, c'est-à-dire qu'on va vite le crématiser, puis on ira porter ses cendres dans un coin du Beaujolais, et voilà, comme ça sera fini. Je crois que là, moi, ça me met en attention par rapport au devenir des gens qui disent ça. Parce que quand on veut éjecter la présence de quelqu'un, souvent on risque bien d'en faire un fantôme ou une personne qui est de type qui aura une présence, j'allais dire, plutôt hallucinatoire. Le temps de l'adieu, ce n'est pas le temps du rejet. Le temps de l'adieu, c'est le temps de dire il y a d'autres modes à découvrir de la relation qui a déjà été tissée lorsque nous étions vivants les uns avec les autres. Donc, je ne me précipite pas sur la crémation, je reconnais qu'elle se développe et je crois que ça demande de la part de la société un certain nombre de précautions.
Alors, quelles sont justement, parce qu'on peut dire que vous êtes, vous, un ministre de l'adieu, à la fois oui. dans le revoir et à la fois dans le fait de confier à Dieu, même si pour ceux qui sont en face de vous, les choses ne sont pas aussi claires que cela. Donc vous qui êtes ministre de l'adieu, on peut dire ça comme ça, quelles sont les précautions que vous prenez pour éviter que cette façon d'évacuer les gens, de les réduire autant que faire se peut, et ce risque, comme vous dites, de fantôme. Un fantôme est une réalité psychique qui est très forte.
Tout à fait.
Voilà. Quelles sont les précautions que vous prenez dans des situations comme celle-là ?
Moi, j'ai rarement part à la décision de la crémation elle-même.
Oui.
Les gens
pour
viennent.
Pour l'accompagnement.
Mais dans l'accompagnement, j'essaye quelquefois d'entendre, pas toujours, quelquefois d'entendre les gens pourquoi ils ont décidé la crémation, d'où vient la demande, est-ce que c'est celui qui est mort qui avait laissé ça comme exigence, et quelles difficultés ils ont rencontrées par rapport à cette demande. Ensuite, je ne les interroge pas sur la crémation elle-même, je les interroge sur la mémoire possible qu'on va garder de celui qui nous a quittés. C'est-à-dire, je ne fixe pas trop, mais peut-être que je néglige, je ne fixe pas trop mon attention sur l'acte même de la crémation. D'autre part, quand je fais des funérailles et qu'il y a la crémation, chaque fois que je le peux, j'insiste pour que l'urne soit présente au moment de la cérémonie. C'est-à-dire qu'à côté du cercueil, on est l'urne. Et qu'à un moment ou l'autre, j'interviens pour dire l'urne dans laquelle vous seront remis les cendres de votre parent, elle est là. Et nous la regardons parce qu'elle a été choisie, le plus souvent quand même, avec soin et avec attention. Et que j'essaye de valoriser, si vous voulez, cet objet, où on ne sait plus bien d'ailleurs si c'est le contenant ou le contenu qui est important, mais j'essaye de valoriser quand même cet ensemble contenu-contenant pour qu'il soit signe d'une présence qui a été donnée, offerte et qui est transformée. C'est vrai que j'ai entendu aussi les gens me dire, mais de façon brutale, et là, je n'ai rien dit parce que je pense que ce n'était pas le moment opportun. On va vite aller disperser les cendres et on jettera l'urne à la poubelle. C'était dans un moment de trop grande douleur par rapport à la mort pour que des choses hautes puissent se formuler. Ce qui fait que très souvent, quand je sens que les gens ne sont pas trop rigides dans leur dans leur volonté de destruction ou d'élimination, j'essaye de leur dire qu'il faut qu'ils prennent du temps avant de décider du statut qui va être donné à l'urne et donc au cendre qu'elle contient. On n'est pas pressé. Et je crois que la disposition légale qui a été prise est assez sage actuellement de dire... On peut attendre, c'est pas comme pour un corps qu'on inhume, où il faut faire ça tout, relativement vite. Là, on peut attendre du temps pour que la destination de cette urne soit prise un peu plus tard, avec un peu de recul, et déjà, au fond, avec cette idée, mais est-ce que cette urne peut être une trace forte de ce qui a été partagé?
Mais est-ce que les convictions et l'expérience qui est la vôtre, sur le fait de poser des gestes, de poser de la parole, de prendre du temps, de se rassembler, est-ce que tout cela que vous connaissez autour du cercueil, autour de l'urne, est-ce que tout cela est possible, se fait plus difficilement, a plus de difficultés à se faire, voyez ? Est-ce que tous ces gestes d'accompagnement que vous faites autour du cercueil, est-ce que vous réussissez à les poser de la même façon autour de l'urne ?
Je n'ai pas le sentiment, enfin, je n'ai pas l'expérience que ça soit plus difficile autour de l'urne. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'on ouvre la porte à des possibilités un peu nouvelles, mais qu'il faut explorer. Moi, je me souviens avoir été très marqué par, il y a déjà quelques années, par une cérémonie que j'ai faite sur Lyon, où le corps du défunt, le défunt était mort dans le sud-ouest de la France. Il avait été crématisé donc, dans cette région-là. Et comme le noyau de la famille était encore sur Lyon avec un certain nombre de points de repère familiaux, ils ont rapporté l'urne quelques semaines après. Et la famille m'a demandé « Est-ce qu'on peut faire une cérémonie ?» Et pour moi, je n'ai pas hésité du tout, même si ce n'est pas une cérémonie qui a eu lieu dans une église paroissiale, ni même dans un centre de crématorium, ça a eu lieu dans un lieu qui était à la fois un lieu accessible pour tout le monde, mais qui était marqué familialement, d'être rassemblé autour de l'urne et dire, voilà, Pierre, il est là, dans cette urne, enfin, ses restes sont là dans cette urne, et nous sommes rassemblés ici pour manifester par nos gestes, par nos paroles, cette attention que nous gardons pour lui. Et il y a eu donc un certain nombre de textes, de témoignages, de chants. Et le geste final a été que chacun est venu, c'est-à-dire pour saisir l'urne dans ses mains et la tenir un moment. Et je pense, ça veut dire, j'en suis pas très sûr, hein, je pense que ce geste-là leur permettait d'inscrire cette réalité dans le continuum de la vie.
De poser des gestes.
Voilà, il fallait poser quelque chose.
Réinsérer voilà, et la personne.
Voilà. Et quand vous dites poser, vous voyez, le mot est très important parce qu'il faut prendre le temps de poser des gestes. Je crois que la menace pour nous, ce n'est pas tellement que la crémation, c'est toujours vouloir faire les choses très vite. Les gens dont les fêtes funéraires, monsieur Chigeon aussi, les enfants auraient voulu que ça se fasse très vite. Mais il y a 15 jours, j'ai fait des funérailles dans la paroisse où je travaille. L'épouse aurait voulu que ça se fasse très vite, 2 jours après. Et on a été obligé de lui dire, écoutez, il faut quand même 4 ou 5 jours pour que vous préveniez les amis, la famille, qu'il y en a qui viennent de loin, etc. et que le rassemblement ait lieu. Et je crois que notre adversaire, c'est plus la précipitation que le mode forcément de conservation d'une trace.
Toujours le désir d'en finir le plus vite possible.
Le désir d'en finir le plus vite possible.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de réflexion sur ces nouvelles ritualités ? Qu'est-ce qui devrait aujourd'hui être aménagé encore pour permettre à la famille ce rassemblement, à la famille et aux amis de poser une parole, un geste, enfin tout ce que vous avez dit autour de cette nécessité pour que quelque chose bouge, voilà, qu'il y ait quelque chose dans l'entourage qui soit à la fois évacué, que ça ne se transforme pas en fantôme, et d'autre part, que quelque chose en soi, quelles seraient les nouvelles pistes que vous envisagez pour ces ritualités adaptées au temps d'aujourd'hui?
Moi, le point qui me semble le plus important, c'est que les personnes qui sont les plus touchées par la mort de quelqu'un puissent passer un peu de temps ensemble pour préparer le déploiement rituel qui sera celui qu'ils vont aménager. Et donc, les éléments les plus importants pour moi, c'est la formation d'un certain nombre d'hommes et de femmes capables de recevoir ces familles. Et capables, non pas de prendre un temps très très long, ce n'est pas des heures et des heures, mais d'avoir quand même une heure ou deux, où on est suffisamment disponible, d'une part, et suffisamment averti des enjeux qui sont mis en œuvre par le rituel et les rites pour aider la famille à se saisir de ce qui va permettre de constituer la cérémonie. Une des menaces de l'autre rive, je peux vous le dire parce qu'ils le savent aussi bien que moi, c'est quand on a 1000 ou 2000 cérémonies par an, ça finit par faire beaucoup quelquefois et on a envie d'aller un peu vite dans la préparation. Et si on rencontre les gens en ayant devant soi une feuille toute prête avec toutes les étapes d'un rituel, on risque bien simplement de coller des trucs les uns à côté des autres sans que ça fasse ce travail de premier un peu sursaut par rapport à l'immédiateté de la mort. Et je travaille un tout petit peu actuellement avec des entreprises de pompes funèbres qui se disent qu'il faut qu'on améliore notre qualification professionnelle. Et c'est dans cette perspective-là qu'ils voudraient travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait avoir du personnel ou bien est-ce qu'on pourrait avoir des gens peut-être bénévoles qui auront le temps et la capacité, l'aptitude pour recevoir une famille, entendre ce qu'ils sont et d'essayer de faire des propositions sur le plan du rituel ou sur le plan des rites qui puissent aider à avancer dans la démarche. On ne peut pas faire du tout programmé.
Donc vous voulez dire, on est passé, et il faut peut-être qu'on passe de plus en plus, à une forme de prêt-à-porter rituel,
oui, oui.
À du sur-mesure.
Tout à fait.
Savoir ce qui est demandé, tout en aidant quand même les gens à formuler une demande qui n'est pas forcément très claire, mais sans calquer pour autant, ou sans plaquer pour autant, quelque chose qui est déjà tout prévu.
Voilà. Tout à fait.
Et trouver le bon équilibre entre... faites comme d'habitude, quoi. Enfin, vous savez ce qu'il faut faire. Enfin, bon, allez-y, quoi. Bon, je veux rien. Donc,
oui, mais voilà. Ça, c'est tout à fait, parce que c'est souvent une réaction des familles quand on les rencontre, c'est de dire mais vous savez faire vous, donc on vous fait confiance.
C'est votre métier, allez-y.
C'est votre métier. Or, il faut qu'on arrive à dire aux gens, ben oui, mais notre métier, c'est de faire avec vous. C'est de pas non pas de vous dire voilà, on va sortir le bouquin du rituel, page 99, et puis on prend la suite. Mais on connaît ce rituel. On sait le poids, j'allais dire le bénéfice éventuel de ces gestes, de ces paroles, de ces musiques et des choses comme ça. Mais il y a un temps d'élaboration avec les gens.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus vous voir, oui j'imagine, après, et qui vous ont dit bah, finalement moi j'étais pas très partisan de tout ça. Enfin bon, je suis venu, on a bricolé quelque chose. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quand même absolument essentiel et que ça a beaucoup... ça m'a beaucoup aidé pour la suite.
Alors, je n'ai pas beaucoup de gens qui reviennent à l'autre rive nous dire merci, encore que souvent ils écrivent une lettre. Et une des choses qui m'avait surpris au moment où on a lancé cette équipe, c'est que ces bénévoles, donc qui ne sont pas prêtres, qui sont des chrétiens, recevaient plus de lettres que je n'en ai jamais reçues que lorsque j'étais vicaire ou curé. C'est-à-dire comme si les gens se sentaient un peu obligés, mais en même temps reconnaissants de l'attention qui avait été prise. Et un autre point de repère que j'ai, c'est que chaque année, les familles qu'on a contactées, on les invite à se rassembler pour un temps de méditation et un temps de prière. Et qu'il y a un certain nombre de gens, parce qu'ils sont encore dans l'agglomération lyonnaise, qui viennent à cette rencontre. Et qui, à ce moment-là, souvent, repartagent un tout petit peu le parcours qu'ils ont suivi. La difficulté, à ce moment-là, elle vient de nous, parce que quand je vois tel visage, je ne sais plus qui c'est. Hein, je ne sais plus si j'ai enterré la grand-mère ou si j'ai enterré le bébé. Mais ça, c'est ma difficulté à moi. Mais je crois que du côté des gens, il y a cette espèce de possibilité offerte.
Donc, ce que vous dites, quand même, c'est qu'il y a une vraie demande informulée ou difficilement formulable Voilà. Mais il y a une vraie demande.
Une vraie demande.
Qui ne rentre pas dans les cases. Quoi. Voilà.
Tout à fait.
Quelque chose de cet ordre-là. Et vous, donc, votre mission, ce que vous avez fait depuis toutes ces années, c'est d'essayer d'ajuster autant que faire se peut une pièce funéraire qui ne rentrait pas dans les cases, mais qui doit rentrer dans une case quand même, qui veut rentrer quelque part et qui n'y arrive pas vraiment complètement. Je voudrais que vous insistiez un tout petit peu, eu égard à votre expérience et à vos convictions, sur cette nécessité, cette nécessité ô combien importante, vous avez parlé de fantômes, de morts enquistées, cette nécessité du rituel pour que nos auditeurs puissent être bien convaincus, comme vous l'êtes vous-même, de cette cérémonie, de ces rites qui soulagent, qui libèrent, qui permettent d'ouvrir sur autre chose, alors que eux-mêmes pensent, enfin la famille pense que c'est pas forcément indispensable.
Ah, vous venez de dire les choses très bien, mais c'est vrai que c'est pour moi une conviction, je veux dire appuyée sur l'expérience, que on ne peut pas assumer la mort de quelqu'un s'il n'y a pas cet entourage rituel. C'est la richesse du cadre social dans lequel nous vivons. Je ne peux pas seul faire face à la mort de l'autre. J'ai besoin, face à cette mort, d'être soutenu, d'être entendu, d'être accompagné par des membres de ce corps social, qu'ils soient la famille, la profession, les amis sportifs, pour que justement le mort ne reste pas simplement le mort, mais que le passé qu'on a vécu soit le lieu d'une germination possible. J'ai envie de vous donner un tout petit exemple, mais qui n'est pas dans mon histoire personnelle, mais dans l'évangile de Saint Luc, il y a une dame veuve qui enterre son fils, c'est la veuve de Naïm. Et on voit bien que dans le texte, il y a une espèce de possession de la mère sur cet enfant dont on ne sait pas l'âge. Est-ce qu'il avait 10 ans ou est-ce qu'il avait déjà 45 ans? On ne le sait pas. En tous les cas, on va vers la mort comme si la mère accompagnait dans la mort son propre enfant. Et Jésus fait arrêter le convoi funèbre et il fait lever le mort. Et il y a cette phrase extraordinaire dans le texte. Et Jésus le donne à sa mère. Ce n'est pas le rend à sa mère, c'est le donne. C'est-à-dire que l'acte de Jésus, dans la réalité, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais l'acte de Jésus, c'est de faire saisir à cette femme que son enfant n'est pas simplement dans la mort, qui pourrait l'attirer elle aussi, mais qu'il lui est redonné sous une autre modalité très mystérieuse, mais qui engendre de la vie.
Christian Biot, merci beaucoup donc pour ce temps qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe, de cette nécessité du rite et de l'accompagnement, et surtout pour tous nos auditeurs qui sont confrontés, comme nous tous, à cette difficulté d'adéquation entre une demande un peu incertaine et puis une demande quand même de quelque chose pour permettre de mieux passer, de mieux être dans cet adieu, dans cet au revoir qui est source peut-être d'autres choses, au moins à titre personnel, au moins à titre psychologique, au moins à titre affectif, au moins à titre spirituel, et puis éventuellement à titre religieux sur d'autres perspectives. Donc je crois que nos auditeurs, grâce à vous, ont mieux saisi à la fois les évolutions, à la fois la nécessité du rituel de l'accompagnement et à la fois les différentes adaptations qui ont été pour partie initiées par vous dans ce laboratoire de nouvelles ritualités qu'est l'Autre Rive et qui permettra ou qui permet sans doute de délocaliser, de déplacer, de mieux adapter une ritualité religieuse à des besoins qui sont moins formulés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Donc, Christian Biot, merci pour votre présence.
Bien, merci aussi à vous de m'avoir permis de participer à cette émission.